Les séminaires du Collège de France.
Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour à celles et ceux que j'ai déjà vus ce matin. Bienvenue dans cette deuxième édition ou deuxième séminaire de notre séminaire de cette année consacré au droit de la science. Alors, comme je l'ai expliqué ce matin, il y a une tendance en philosophie des sciences, mais aussi en droit des sciences, en droit international des sciences en particulier, à reléguer, à déclasser les savoirs locaux, y compris les savoirs autochtones, en pure culture, religion ou folklore. La réanimation actuelle du droit de l'homme à la science fait que nous allons pouvoir, si ce droit devient effectif, protéger la diversité scientifique et redonner aux savoirs locaux et autochtones la qualité de savoir scientifique lorsque c'est possible. Mais pour ce faire, encore faut-il comprendre ces savoirs locaux et autochtones, et pour les avoir trop longtemps négligés, les juristes sont un peu désemparés pour comprendre le cadre institutionnel et juridique propre à ces savoirs locaux, y compris aux savoirs autochtones, dans toutes leurs différences, bien entendu. Alors pour nous aider, nous, pauvres juristes, j'ai demandé aujourd'hui à Philippe Descola de venir à notre secours. Philippe Descola, vous le connaissez bien, il est professeur du Collège de France. C'est étrange même de le présenter ici dans sa maison. Il a été maître de conférences puis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales avant de devenir professeur ici même de 2000 à 2019 sur une chaire d'anthropologie de la nature. Il y a dirigé le LAS, le laboratoire d'anthropologie sociale, jusqu'en 2013. Il est médaillé d'or du CNRS, président de la Société des Américanistes depuis 2002 et membre, bien sûr, de nombreux autres conseils scientifiques. Plus important pour nous, il est anthropologue, ethnologue, spécialiste des questions de relations à l'environnement. Ses recherches ont notamment porté, pour nous juristes, c'est très intéressant, sur la distinction entre nature et culture, entre humain et non-humain. Et dans son dernier ouvrage, en tout cas l'un des derniers, « Les formes du visible », il jette les bases théoriques d'une anthropologie de la figuration. Alors, ce qu'il nous propose cet après-midi, c'est de nous parler davantage des moyens ou de la possibilité d'une protection des savoirs autochtones. C'est une question qui se situe au cœur de son expertise, dans le domaine notamment de l'anthropologie des savoirs. Un grand merci, cher Philippe, d'avoir accepté cette invitation à venir parler aux juristes, soucieux de la diversité des sciences et d'une meilleure protection de leurs cadres normatifs respectifs. Nous sommes très honorés. Merci beaucoup.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Samantha Besson pour cette invitation. Je suis très heureux de me retrouver dans cette salle où j'ai commencé il y a longtemps mon enseignement au Collège de France. Je vais essayer de répondre à cette question difficile de la protection des savoirs autochtones. C'est un problème que l'on connaît parce que les accusations de biopiraterie ou d'appropriation culturelle qui sont portées par des populations autochtones et des ONG l'encontre des firmes pharmaceutiques, à l'encontre d'organismes de recherche et de compagnies commerciales, ont mis sur le devant de la scène la question plus générale de l'appropriation marchande des savoirs autochtones, que ces savoirs relèvent de domaines spécialisés comme les connaissances biologiques, ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on a tendance à regrouper sous le terme de TEC, Traditional Ecological Knowledge, ou LEC, Local Ecological Knowledge, ou bien qu'il concerne des aspects plus généraux d'une culture, à savoir des symboles, des images, des concepts ou des discours rituels. La première question que soulèvent ces débats est de définir la nature de ces savoirs et de déterminer à qui ils appartiennent au juste. Qu'est-ce qui constitue une connaissance exploitable, c'est-à-dire susceptible de se transformer en ressource monnayable, raison pour laquelle il faut la protéger. Toute connaissance n'est pas exploitable en ce sens. En effet, on ne parle pas ici de connaissance commercialisable, entendue au sens d'une expertise souhaitable qui peut être négociée sur le marché du travail, telle une compétence linguistique ou bien la maîtrise d'un certain type d'outils. On parle ici de connaissances en tant que marchandises au sein d'une série d'éléments d'information au sens d'une série d'éléments d'information délimités et reproductibles, dotés d'une valeur marchande en raison des profits qu'ils peuvent engendrer. Mais quand la connaissance devient-elle une marchandise ? Il a fallu du temps pour y parvenir. Lorsque Adam Smith ou Marx ont défini le système économique de l'ère moderne comme un système où la terre et le travail étaient des marchandises universellement échangeables sur un marché ouvert, ils ont laissé de côté la connaissance en tant que facteur de production ou force productive. Et ce n'est qu'avec l'essor de la mécanisation et le développement de branches telles que la chimie appliquée que la question du brevetage des connaissances et des savoir-faire techniques incorporés dans des objets est devenue cruciale dans la compétition industrielle. En ce sens, le savoir est devenu une marchandise au même titre que la terre et le travail, c'est-à-dire lorsque sa valeur d'échange est devenue indépendante du contexte social dans lequel ce savoir est utilisé. En effet, le savoir en tant que marchandise n'est pas simplement un savoir possédé ou approprié par une personne ou par un groupe de personnes. Sa valeur même en tant que marchandise dépend de sa capacité à être radicalement séparée des relations dans lesquelles ce savoir s'inscrit. Permettez-moi d'illustrer ce point par un exemple qui est celui des malanganes. Les malanganes sont des objets rituels qui sont typiques de la partie nord de l'île de Nouvelle-Irlande, en Mélanésie, qui ont attiré l'attention des collectionneurs en raison de leur qualité esthétique. Il existe environ 10 000 malanganes dans les musées et dans les collections privées du monde entier. Et malgré leur hétérogénéité en termes de forme, de conception et de matériaux, c'est très divers les malanganes. Ça peut être des sphères en vannerie, ça peut être des espèces de téléphériques qui se déplacent le long d'une liane. C'est une très très grande diversité. En dépit de cette diversité, la fonction des malanganes était similaire. Ils étaient brièvement exposés, puis détruits lors des cérémonies funéraires et des rituels d'initiation de cette île de Nouvelle-Irlande. Or, chaque classe de malanganes était soumise à un droit de reproduction appartenant à des individus ou à des unités sociales spécifiques, un droit de copyright, un droit de propriété, donc, non pas de l'objet en tant que tel, mais de son modèle, de son schéma mental et de son utilisation rituelle. Et ce droit, ce copyright, ce droit d'auteur, pouvait être cété dans certains cas comme une sorte de bail temporaire et comme l'expression d'une volonté d'alliance politique avec le groupe de personnes à qui ce droit était cédé. Donc bien qu'il circule, l'usage du droit d'auteur, du copyright, d'une classe particulière de malanganes reste confiné à un espace restreint où il sert des objectifs sociaux et rituels précis. Le droit de reproduction du malangane devenait l'objet donc d'une appropriation, mais il n'était pas une marchandise puisqu'il n'avait pas de valeur d'échange universelle, et ce malgré le fait que les objets eux-mêmes, désormais détachés du contexte qui leur donnait un sens, étaient progressivement devenus, depuis la fin du XIXe siècle, des marchandises d'une grande valeur sur le marché international de l'art indigène. Donc ce que les galéristes, les musées ou les amateurs d'art primitif achètent lorsqu'ils acquièrent un malangane, et vous en pouvez en trouver galéristes spécialisés, c'est un artefact doté d'une valeur marchande du fait de sa circulation dans un marché globalisé et non le droit localisé de produire un malangane dont le copyright ne circule traditionnellement qu'au sein d'un groupe social très restreint. On peut donc supposer, raisonnablement, que la question dont nous discutons cet après-midi est en fait la suivante. La connaissance en tant que marchandise doit-elle appartenir à ceux qui la créent ? Et évidemment, cela soulève une nouvelle question. Comment définir, comment identifier les créateurs de ce type de connaissance ? Le cas le moins difficile, celui qui est couvert par les lois sur les brevets et sur les droits d'auteur, est celui d'un créateur unique et identifiable, d'une création unique incorporée dans un objet commercialisable tel qu'un livre, un morceau de musique ou un processus technique. Toutefois, même cette situation apparemment simple est plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, même si le créateur unique est identifiable, la connaissance qu'il ou elle a produite peut s'avérer difficile à démêler de la production des autres créateurs. Je vais prendre un exemple. Si on prend l'exemple de la philosophie, qui, à la suite de Gilles Deleuze, peut être conçue comme l'art de créer des concepts, et j'admets que les concepts philosophiques ne sont pas des marchandises, pas encore, heureusement, mais les livres par lesquels ces concepts sont véhiculés peuvent certainement être qualifiés comme des marchandises. Or, lorsque, pour prendre un exemple de cette maison, lorsque Merleau-Ponty tente de définir le sujet percevant par rapport au cogito dans sa Phénoménologie de la perception de 1945, il commente un livre plus ancien, un livre de Husserl, Les Méditations cartésiennes de 1931, qui sont une série de conférences de Husserl, lesquelles sont elles-mêmes un commentaire critique des Meditationes de Prima Philosophia de 1641, dans lesquelles Descartes élabore une critique radicale, bien que largement implicite, de la philosophie scolastique. Ainsi, le savoir que Merleau-Ponty crée dans son livre n'est pas né dans le vide, mais il découle du remaniement de concepts et d'hypothèses qui ont été élaborés au fil des siècles par une communauté transnationale et transgénérationnelle de chercheurs engagés dans la poursuite d'un savoir utilisable. C'est du moins ce qu'est la philosophie pour eux, un savoir qui a une fonction pratique. Il est encore plus difficile de déterminer qui est responsable d'une création dans le cas d'un auteur collectif. Équipe de recherche, entreprise et en fin de compte communauté virtuelle sur l'Internet. La croissance exponentielle des procès en biologie moléculaire et en programmation informatique montre bien la difficulté d'établir ce qu'est un acte créatif dans certains domaines de la recherche scientifique et à qui, précisément, il peut être attribué. Cependant, le degré le plus élevé de complexité est atteint lorsqu'il s'agit d'un créateur collectif et anonyme tel que ce que nous appelons une culture. Bien qu'il existe des lignes directrices dans ce domaine, notamment dans le champ des connaissances ethnobiologiques, aucun consensus juridique n'a été atteint au niveau international. Par exemple, la Convention de l'UNESCO de 1970 sur, je cite, « les moyens d'interdire et de prévenir l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels » ne définit ces biens que comme des artefacts et non des connaissances. Sont ainsi caractérisés dans ce document comme des biens culturels. Un, les collections rares et les spécimens de faune, de flore, de minéraux, d'anatomie et les objets d'intérêt paléontologique. 2, les biens relatifs à l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et l'histoire sociale. 3, les produits de fouilles archéologiques. 4, les éléments de monuments artistiques ou historiques qui ont été démembrés. 5, les antiquités datées de plus d'une centaine d'années, telles les inscriptions, les monnaies et les sceaux gravés. 6, les objets d'intérêt ethnologique. Bien malin qui peut dire quel objet est un objet d'intérêt ethnologique. 7, les biens d'intérêt artistique, même chose. 8, les manuscrits rares, incunables, livres anciens, documents et publications présentant un intérêt particulier. 9, les affranchissements vignettes et autres timbres. 10, les archives, y compris les archives sonores, photographiques et cinématographiques. 11, les pièces de mobilier datées de plus d'un siècle et les instruments de musique anciens. Aux États-Unis, la protection et la préservation des biens culturels des peuples autochtones renvoie aux matérialisations historiques de ce qui serait sacré pour eux, et elles dépendent notamment du NACPRA, le Native American Graves Protection and Repatriation Act de 1990, qui exige que les biens culturels soient restitués aux Amérindiens quand ils ont été trouvés dans des fouilles archéologiques. Étant entendu que par bien culturel, il faut, là encore, entendre des objets matériels, des restes humains, des objets funéraires, des armes, des outils et tout ce qui paraît relever d'un patrimoine autochtone. Par contraste, la protection de la propriété intellectuelle des Amérindiens renvoie à leur production contemporaine dans le domaine séculier, et elle dépend d'une autre loi, l'IACA, Indian Arts and Crafts Act, également votée par le Congrès en 1990, et qui protège l'artisanat et l'art autochtone en autorisant les tribus amérindiennes à intenter des actions en justice pour, à l'évidence, qui est conçue comme de la concurrence déloyale. Par exemple, les poupées Katsinam, qui figurent traditionnellement les centaines de divinités des Hopis, qui sont des poupées qui sont confectionnées et données aux enfants. Ils n'ont pas véritablement un caractère sacré, si ce n'est qu'elles figurent des divinités. Ces poupées Katsinam sont maintenant majoritairement fabriquées par des ateliers au Nouveau-Mexique, qui les produisent à la chaîne et non par des sculpteurs Hopi. Toutefois, la protection ne concerne pas la reconnaissance ici de la propriété intellectuelle des modèles de Katsinam que les Hopi sculptent depuis des siècles, mais prohibe simplement le fait de produire des objets culturels, en l'occurrence des Katsinam, qui seraient faussement qualifiés comme étant d'origine amérindienne. C'est un peu l'équivalent de l'appellation d'origine protégée en Europe pour les fromages ou pour les vins. Donc, du fait de ces limitations à un usage purement commercial, il n'y a pas eu un seul litige introduit par une tribu autochtone depuis l'instauration de l'IACA. Donc le véritable problème qu'il nous faut aborder, ce n'est pas tant la question faussement simple, le savoir doit-il appartenir à ses créateurs, mais plutôt le savoir culturel, sous quelque forme que ce soit, doit-il être considéré comme une marchandise. Certaines organisations autochtones, notamment au Mexique, ont répondu par la négative à cette question, estimant qu'elle n'avait pas à rentrer dans la logique mercantile du capitalisme qui fait de tout savoir un bien échangeable sur un marché. Mais c'est à nous, chercheurs du Nord global, que la question est posée. Y répondre exige, je dirais presque malheureusement, de mettre à distance les préoccupations légitimes quant au bien-être et à la protection des minorités tribales avec lesquelles, en tant qu'ethnologue, par exemple, j'ai été associé, et bien que cela puisse paraître aller à l'encontre de mes engagements en ce domaine, cette question implique de prendre une position morale et politique plus détachée et d'émettre un jugement général en tant que citoyen du monde, plutôt que d'adopter la position de porte-parole de peuples autochtones vis-à-vis desquels je pense avoir une responsabilité. Bref, cela implique de mesurer toutes les conséquences que la marchandisation universelle des savoirs pourrait entraîner. Toutefois, et avant de se lancer dans une telle entreprise, il faut se demander qu'est-ce que c'est que le savoir culturel. Nous savons tous que les cultures ne sont pas des entités sociologiques faciles à définir et à délimiter, qui se prêteraient à une identification juridique directe. Comment alors attribuer un savoir tout à fait spécifique à un groupe de personnes tout à fait spécifique? Prenons l'exemple, que je reconnais un peu caricatural, de la culture grecque. Tout le monde s'accorde à dire que la plupart des Grecs contemporains ont un fort sentiment d'appartenance à une civilisation millénaire enracinée dans une tradition ancienne et prestigieuse. Cette continuité peut être discutée, bien sûr, mais je propose de définir ici l'identité culturelle comme nous le faisons habituellement en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire sur la base d'une description de soi. L'identité culturelle, c'est l'identité que les gens réclament pour eux-mêmes et la façon dont ils décrivent, dont ils se décrivent eux-mêmes à l'intérieur d'un collectif. Si l'on considère donc que les Grecs contemporains forment une culture dotée d'un profond héritage historique, peut-on dire que la logique, par exemple, appartient à la culture grecque? Plus précisément, peut-on dire que le syllogisme, formalisé par Aristote, mais couramment utilisé comme mode de raisonnement par Platon et par les sophistes, appartient à ses créateurs, c'est-à-dire à la culture grecque? En un sens, on peut certainement l'affirmer. Et les livres d'histoire ne s'y trompent pas lorsqu'ils exposent le miracle grec. Mais à partir de cette réponse positive, nous ne pouvons pas sérieusement soutenir que la théorie du syllogisme devrait être brevetée au profit de la culture grecque. Néanmoins, la logique prédictive constitue le fondement de la logique moderne, qui est elle-même le principal outil de création de produits hautement commercialisables, à savoir les programmes informatiques. Alors mon exemple semble absurde, parce que lorsque nous parlons de la connaissance culturelle en tant que marchandise possible, nous ne faisons pas référence à la connaissance culturelle de la culture grecque, de la culture française ou de la culture chinoise. Nous faisons référence, bien que toujours de façon implicite, au savoir culturel des minorités culturelles. La véritable question que nous devons nous poser est donc, en fait, le savoir culturel des minorités culturelles doit-il être considéré comme une marchandise? On peut remplacer minorité culturelle, si on veut, par culture autochtone ou par société indigène, mais quel que soit le terme choisi, comment allons-nous définir ces entités sociales sans revenir aux définitions substantialistes du passé et sans distinguer ces entités de la situation de l'humanité ordinaire, avec les risques qu'implique une telle identification sélective. ne risquons-nous pas, ce faisant, une institutionnalisation déguisée d'un apartheid culturel en tant que forme moderne de l'apartheid racial? La plupart des revendications en faveur des droits de propriété intellectuelle autochtone évitent soigneusement de définir formellement le statut des populations auxquelles des régimes de droits spéciaux devraient être accordés. Et cela s'explique peut-être par le fait que le débat s'est principalement limité jusqu'à présent aux peuples autochtones des Amériques et de l'Australie, c'est-à-dire, ou de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire aux minorités culturelles et linguistiques autochtones clairement identifiables au sein des nations colonisées par les Européens. Au cours de leur lutte pour la terre, pour la dignité, pour la reconnaissance de leurs spécificités culturelles, ces minorités ont souvent obtenu des statuts juridiques spéciaux ou dérogatoires concernant la propriété foncière, les droits civiques ou les droits personnels, qui contribuent donc de ce fait à les distinguer socialement et spatialement, notamment par la politique des réserves, des citoyens ordinaires, et à les rendre plus visibles en tant que sous-ensemble distinct des communautés nationales. Du reste, aux États-Unis, la mise en œuvre de dispositions législatives comme celles que j'ai mentionnées tout à l'heure, à savoir le NACPRA ou l'IACA, sont rendues possibles par le fait que les Amérindiens sont officiellement répartis en un nombre fixe de tribus reconnues en tant que telles par le gouvernement fédéral, par le département de l'Intérieur au sein du gouvernement fédéral, et il y en a actuellement un nombre fixe de 574. Donc il leur est possible, de ce fait, d'ester en justice, en tant que personne morale, légalement constituée, même si l'on a vu qu'elle le faisait peu. Il est vrai que les obstacles à surmonter sont considérables. Prenons par exemple, parmi ces obstacles, l'exemple de la lutte contre le détournement et l'appropriation des symboles amérindiens par les non-autochtones. Au début du XXe siècle, par exemple, l'État du Nouveau-Mexique, qui a été officiellement instauré en 1912, donc très récemment, a ouvert un concours pour créer son drapeau. Le projet retenu, proposé par un archéologue qui avait repéré le motif sur une poterie des Pueblos Zia datant du XIXe siècle, consiste en un symbole rouge se détachant sur un fond jaune et composé d'un cercle d'où irradie dans chacun des points cardinaux quatre séries de quatre lignes. Outre le drapeau de l'État, le symbole se trouve maintenant sur la documentation officielle du Nouveau-Mexique, sur les plaques minéralogiques et sur de nombreux objets commerciaux d'usage courant qui reprennent bien sûr la signalétique et la symbolique du drapeau de l'État. Les Pueblos Zia ont contesté sans succès l'usage commercial de ce symbole, ce qui a incité le US Patent and Trademark Office à créer un programme intitulé Native American Tribal Insignia qui vise à rendre plus difficile l'usage mercantile des symboles sacrés amérindiens, enfin des symboles considérés comme sacrés. Il y a toute une discussion qu'on pourra peut-être mener après sur l'utilisation du mot sacré pour définir certains types de figurations et de symboles utilisés par les Amérindiens, et qui vise donc à rendre plus difficile l'usage mercantile de ces symboles, faute d'une protection légale qui n'a pas pu être voté au Congrès. Et donc les tribus reconnues à l'échelle fédérale, les 574 tribus reconnues à l'échelle fédérale aux États-Unis peuvent enregistrer ce que l'on appelle des insignes tribaux, c'est-à-dire des motifs traditionnels dans la base de données du Native American Tribal Insignia. Cela n'empêche pas leur utilisation commerciale, mais les enquêteurs qui examinent les demandes de marques déposées, de trademarks, sont désormais habilités à juger de la nouveauté d'une marque au regard des insignes déposés dans la banque de données. Et moins de 10% des tribus reconnues ont jusqu'à présent soumis des insignes dans ce programme du Native American Tribal Insignia. Pourtant, la visibilité relative acquise au sein de la nation états-unienne par les tribus autochtones n'est pas la norme partout dans le monde. Et les partisans d'une approche qu'on pourrait appeler différentialiste de la protection des savoirs devraient peut-être prêter plus attention au fait que la diversité culturelle n'est pas seulement un phénomène interne, typique des grandes nations d'immigration européenne du type melting pot, mais aussi une caractéristique du monde entier. Or, s'il est une leçon que nous avons tirée de l'anthropologie, c'est bien l'impossibilité de concevoir les cultures comme des ensembles territoriaux délimités, définis par des ensembles d'attributs substantiels. Qui décidera alors et comment qu'un groupe social spécifique peut ou non être considéré comme une véritable minorité autochtone, une nation ethnique, une communauté traditionnelle ou tout autre nom que l'on pourra choisir pour désigner les bénéficiaires potentiels culturellement uniques d'un régime spécial de droit de propriété intellectuelle collectif. Par exemple, les Basques font partie de l'échantillon ethnique des Human Relations Area Files, qui est cette gigantesque base de données comparative coordonnée par l'université de Yale, dont le seul exemplaire en Europe est abrité dans mon laboratoire au Collège de France, et nous en enorgueillissons de ce dépôt, et qui comprend les données ethnographiques de 1300 cultures extrêmement détaillées dans le monde, et qui permet donc des croisements de critères pour établir des analyses comparatives. Devons-nous pour autant considérer les Basques comme des candidats probables, ou les Gallois, ou les Ossètes, ou les Kabyles? Et si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons? Ne sont-ils pas des minorités au sein des nations avec leur propre culture et leur propre langue et une longue histoire de relations difficiles avec des États hégémoniques? N'ont-ils pas autant le droit que les Hopis d'exiger le contrôle de toutes les images, textes, cérémonies, musiques, chansons, histoires, symboles, coutumes et idées les concernant? Et si la possibilité pour ces types de minorités culturelles d'obtenir un contrôle exclusif de leurs biens culturels est considérée comme fantaisiste ou ridicule, n'est-ce pas parce qu'une différence implicite est faite entre, disons, les Basques et les Kabyles d'une part, et les Hopis et les Pintupis d'Australie d'autre part, en ce qui concerne leur essence même et leur revendication d'authenticité? Si c'est le cas, si cette différence est faite, c'est assez inquiétant. Les Européens ont des souvenirs douloureux, très douloureux, et des exemples contemporains cauchemardesques d'idéologies qui prétendent que la pureté ethnique est la base de la circonscription et de l'accomplissement de soi. Et bien que la fiction de la pureté ait été établie principalement sur la base de critères prétendument raciaux. Des dimensions culturelles ont également été prises en compte dans cette opération, en particulier dans la tradition allemande du Völkisch, pour souligner le caractère unique des communautés et la nécessité de leur ségrégation. Aujourd'hui encore, des mouvements d'extrême droite, comme le Rassemblement national en France ou l'AFD en Allemagne, dissimulent leur xénophobie aiguë sous l'affirmation que les cultures ne devraient pas être mélangées de peur de perdre les identités spécifiques qu'elles véhiculent. Pour être tout à fait clair, je ne veux pas dire que la défense des droits collectifs de propriété intellectuelle sur le patrimoine culturel des minorités ethniques s'apparente à une ségrégation raciale, mais plutôt que l'histoire nous a appris que l'octroi d'un statut spécial à des peuples spécifiques est lourd de danger, car il tend à perpétuer l'idée de différence substantielle, irréconciliable, entre nos semblables. La dette collective que les Euro-Américains ont contractée en soumettant les populations autochtones à différentes formes de génocide et d'ethnocide ne sera pas effacée par la simple attribution d'un statut exceptionnel à ces populations au moyen de cadres juridiques spécifiques. Mais même si nous le faisions, même si nous avions recours à cette discrimination positive, de nombreux problèmes pratiques continueraient à se poser, le principal étant la question de la propriété. À qui appartient un savoir spécifique au sein d'une minorité culturelle ou d'une société autochtone spécifique? Supposons par exemple qu'un cultivar, variété cultivée spécifique de manioc, de maïs ou de patate douce, utilisée par une communauté autochtone en Amazonie, s'avère résistant à certains parasites ou à des maladies et qu'ils deviennent ainsi commercialisables dans le monde entier en tant que variété d'un cultigène. Il s'agit sans aucun doute d'une connaissance, incorporée dans un objet biologique, née d'une expérimentation minutieuse et concrétisée par un produit. Qui est le créateur de cette variété de plantes cultivées? Alors vous pouvez répondre, la culture où elle a été trouvée. Mais il se peut que le cultivar ne soit utilisé que par une infime partie de la communauté locale et qu'il ait été acquis dans un passé pas si lointain auprès d'une communauté voisine appartenant à une autre tribu ou à une autre culture où, faute d'études adéquates, sa présence restera ignorée. Par exemple, les Achuars de la Haute Amazonie qui m'ont accueilli pendant plusieurs années possèdent près d'une centaine de cultivars de manioc. Cependant, chaque groupe local possède ses propres cultivars, et bien que l'on puisse dire que la diversité génétique appartient à la tribu Achuar dans son ensemble, c'est-à-dire que si on recense l'ensemble des cultivars cultivés par l'ensemble des familles Achuar en Équateur et au Pérou, un cultivar spécifique ayant une valeur marchande potentielle peut n'être propagé que par une poignée de familles. Est-ce qu'on devra considérer que seules ces familles devraient bénéficier des redevances éventuelles qu'un brevet hypothétique pourrait rapporter? Ou bien est-ce l'ensemble de la tribu qui devrait en bénéficier? Et dans ce dernier cas, comment s'exprimerait cette propriété collective? Par une organisation de base autochtone? Mais supposons que, comme c'est souvent le cas, une telle organisation n'existe pas, ou supposons que, comme c'est encore plus fréquent, la tribu, je vous mets des guillemets, soit divisée entre deux ou trois organisations conflictuelles, ce qui est en général la norme à l'heure actuelle. On n'est pas du tout dans la situation caractéristique des États-Unis où chaque groupe ethnique est reconnu officiellement et donc peut, et constitue une personne morale vis-à-vis du gouvernement fédéral. D'un point de vue moral et d'un point de vue juridique, il n'y a pas de réponse claire à ces questions. Et le fait que des entreprises ou des individus peu scrupuleux aient réussi à breveter des connaissances biotechnologiques obtenues auprès des Indiens d'Amazonie ne rend pas ces questions moins épineuses, même si cela en dit long sur l'élasticité des normes éthiques, et le faible degré d'expertise des officines de brevets. Par exemple, c'est un cas très classique que les spécialistes de l'Amazonie connaissent bien. En 1986, le directeur d'une compagnie de bioprospection états-unienne, californienne en l'occurrence, l'International Plant Medicine Corporation, a obtenu un brevet du Patent and Trademark Office des États-Unis sur une variété de Banisteriopsis caapi, c'est-à-dire c'est une plante qui sert à faire un breuvage hallucinogène connu en Amazonie sous le nom d'ayahuasca, et dont la réputation a franchi d'ailleurs les frontières de l'Amazonie. Des organisations autochtones ont attaqué à juste titre la décision, qui fut annulée dans un premier temps, puis confirmée dans un second jugement pour des raisons qui prendraient beaucoup trop longtemps à expliciter, mais qui sont intéressantes précisément du point de vue du droit des brevets. Pour faire un parallèle, c'est à peu près comme si un quidam venait ramasser un plant de Malbec ou de Pinot Noir dans un vignoble français et se faisait délivrer un brevet d'exclusivité sur son usage auprès d'une officine de brevets à l'étranger. Pour terriblement choquante que soit l'affaire, toutefois, elle n'apporte aucune lumière sur la question du droit de propriété originel de l'ayahuasca, puisque plusieurs dizaines de groupes ethniques de la région amazonienne utilisent actuellement cette préparation. Personne ne saurait dire avec exactitude à qui elle appartient. Au demeurant, ce que le cadre légal et la jurisprudence de l'Office des brevets états-uniens montrent aussi clairement, comme l'ont constaté à leurs dépens divers groupes autochtones lorsqu'ils ont voulu faire patenter des variétés qu'ils avaient sélectionnées au cours de siècles d'expérimentation agricole, c'est que la protection juridique sur des cultivars, c'est-à-dire sur des savoirs ethnobiologiques qui ont permis la production de ces cultivars, ne peut s'appliquer qu'à des individus, que ce soit des personnes ou des firmes, et non à des collectivités. Autrement dit, le brevet protège le droit d'un semencier sur une variété et non d'un groupe tribal sur des semences traditionnelles. Et en ce sens, le concept de propriété intellectuelle communautaire paraît incompatible avec un régime légal fondé sur la propriété privée individuelle. D'où le paradoxe dans lequel les anthropologues, beaucoup d'anthropologues, et moi-même en particulier, nous trouvons. En tant qu'anthropologue activement engagé depuis de nombreuses années dans l'étude ethno-écologique des Amérindiens d'Amazonie, je comprends parfaitement l'enjeu de ne pas les priver du peu qu'il leur reste, après qu'on les ait dépouillés de leur terre et de leur force de travail. Le peu qu'il leur reste, ce sont leurs savoirs traditionnels. Mais je comprends aussi très bien qu'une fois accordée la possibilité de breveter des connaissances biologiques, cette possibilité ne pourra pas être limitée aux autochtones d'Amazonie. Voulons-nous vraiment que les laboratoires qui cartographient le génome humain déposent des brevets sur les séquences de gènes? Donc, en focalisant la question de la propriété intellectuelle sur les questions d'éthique ethnobiologique, nous risquons aussi de mal interpréter les graves inconvénients que comporte dans d'autres domaines la marchandisation des savoirs culturels. Ce processus est indubitablement en cours, tant dans le monde occidental que dans les pays du Sud, en partant du principe que la culture immatérielle doit être traitée comme un patrimoine national, régional, local, ethnique, etc., du même type que les artefacts, les paysages ou les bâtiments culturellement saillants. Mais un tel concept occidental de propriété et de fermeture nationaliste ne tient pas compte du fait que les biens culturels provenant de l'extérieur peuvent aussi être très appréciés par des minorités culturelles. Par exemple, dans la majeure partie de la Haute-Amazonie, les savoirs chamaniques, c'est-à-dire des savoirs exploitables, utilisés pour le traitement de l'infortune, circulent sur de grandes distances, chaque ethnie, chaque communauté locale ayant tendance à considérer les savoirs chamaniques venus de loin comme ayant une efficacité supérieure à celle à la leur, ou du moins comme constituant un complément nécessaire à celle-ci. Ce genre de savoir doit-il devenir une marchandise ? Est-il souhaitable qu'il soit protégé par des brevets, des taxes à l'importation, des droits d'auteur ? Ces questions peuvent paraître absurdes à ce stade, peut-être en partie à cause d'un certain préjugé ethnocentrique qui nous fait considérer le savoir ethnobiologique comme authentique et légitime, et donc potentiellement convertible en marchandise, et le savoir chamanique tout simplement comme une superstition et donc indigne d'une protection légale. Cependant, ces questions ne resteront pas absurdes longtemps, surtout avec la mode actuelle des écoles chamaniques euro-américaines. Si nous admettons que le savoir ne doit pas être libre. Alors je crois profondément que ce n'est pas en prenant une marchandisation accrue du savoir que nous allégerons le sort des minorités tribales, mais plutôt en luttant pour un monde dans lequel, d'une part, la propriété ne serait pas la seule mesure de la capacité d'une personne à contrôler son destin, et où, d'autre part, une grande partie des aménités dont nous disposons pourrait être traitée comme des biens communs dont les droits d'usage seraient fixés par des conventions entre usagers à l'encontre du mouvement d'accaparement des communs qui n'a cessé de s'accélérer et de s'étendre depuis le début des enclosures en Angleterre. Vous direz que c'est peut-être une utopie, mais je pense que c'est une utopie indispensable.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.